France Culture.
France Culture, question du soir. Astrid de Villaine.
Après 18 mois de siège, la chute de la ville d'El Fasher au Darfour marque un tournant dans la guerre au Soudan. En s'emparant de cette ville stratégique, les forces de soutien rapide, FSR, du général Emeti contrôlent désormais la quasi-totalité du Darfour, vaste région qui couvre près d'un tiers du pays à l'ouest. Face à elle, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan dispose d'une assise inégale à Khartoum et à l'est du pays. Deux pôles, deux armées, deux Soudans, l'un tourné vers la vallée du Nil, l'autre vers le Sahel. Dans ce pays aux 8 frontières, la rivalité entre deux chefs de guerre s'enracine dans les fractures ethniques et territoriales du Soudan, tout en attirant les ambitions des puissances régionales. Émirats arabes unis, Égypte, Turquie, le risque est désormais celui d'un État morcelé, livré aux milices et aux influences étrangères. Le Soudan se dirige-t-il vers une partition de fait? Peut-il survivre à cette fragmentation territoriale et communautaire? Assiste-t-on, comme en Libye hier, à la disparition d'un État sous le poids de la guerre et des appétits extérieurs? Nous allons en parler avec nos deux invités. Bonjour Jérôme Toubiana.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là. Vous êtes conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières, spécialiste du Darfour, du Soudan et du Soudan du Sud. Et vous rentrez du Darfour, vous nous raconterez ce que vous en avez vu. Face à vous, Christophe Ayad, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là dans Question du Soir. Vous êtes journaliste au Monde et je cite votre documentaire co-réalisé en 2007 avec Vincent de Cointet et diffusé sur Arte, Darfour, autopsie d'une tragédie. Merci à tous les deux d'être là. Jérôme Toubiana, j'aimerais qu'on commence avec vous, puisque vous êtes tout juste revenu du Darfour. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu?
En fait, là, j'étais dans une région au nord Darfour, qui est pas loin de la ville d'El Fasher, qui vient d'être prise, mais qui n'est pas tenue par les forces de soutien rapide. Il n'y a pas que El Fasher qui ne contrôle pas. Il y a aussi cette région qui fait partie d'enclaves tenues par des groupes rebelles, hein, qui sont les groupes rebelles historiques du Darfour, qui étaient historiquement, qui ont lutté contre l'armée et les milices janjaouides devenues les forces de soutien rapide, les milices arabes du Darfour.
Les FSR, on dit souvent paramilitaires, ouais, par rapport à l'armée régulière.
Les paramilitaires, qui donc étaient les grands alliés, les supplétifs de l'armée, et puis qui se sont fâchés avec l'armée, et donc il y a cette compétition pour le pouvoir. Et ces groupes rebelles historiques qui recrutent parmi les communautés non arabes du Darfour, ils ont progressivement, pas facilement. Au début, ils se présentaient plutôt comme neutres. Ils disaient, voilà, ce sont nos ennemis, nos persécuteurs qui s'affrontent. Laissons-les s'affronter et regardons le match. Mais les forces de soutien rapide qui recrutent parmi les Arabes du Darfour, les anciennes milices janjaouides, ont très rapidement, hein, quand le conflit a commencé en avril 2023, continué leur guerre contre les communautés non-arabes du Darfour. Et ça fait que, il y a eu cette résistance de ces communautés contre les forces de soutien rapide, qui a conduit à une alliance avec l'armée. Mais surtout, ces groupes rebelles non-arabes du Darfour, c'est eux qui mènent une grande partie de la guerre, et pas seulement au Darfour. C'est eux qui ont beaucoup contribué à la libération de Khartoum, par exemple, et aujourd'hui à la libération du Kordofan, à la reprise par l'armée du Kordofan entre le Darfour et le centre. Et ce que j'ai vu, c'est cette résistance, en fait, en réalité. Et dans la zone où j'étais, tout le monde était suspendu à son téléphone ces dernières semaines parce qu'on n'arrivait plus à contacter El Fasher et parce que tout le monde a la famille à El Fasher et tout le monde craignait que ces gens soient massacrés. Et c'est probablement ce qui s'est passé, même si on a très peu d'infos, seulement par les vidéos très meurtrières d'ailleurs que les FSR eux-mêmes mettent en ligne.
Et on va parler longuement avec vous de la situation humanitaire qui est catastrophique et également des origines de ce conflit. Mais restons en effet sur cette ville d'El Fasher qui est donc à l'ouest du pays, la capitale du Darfour du Nord. Pourquoi, alors que vous venez de le dire, Jérôme Toubiana, le conflit dont on parle a commencé en avril 2023, cette prise d'El Fasher par les FSR constitue-t-elle un tournant ou pas d'ailleurs, Christophe Ayad?
Alors si tournant il y a, c'est parce que c'était la dernière enclave importante de l'armée soudanaise au Darfour. C'était sa dernière empreinte. Et tant que El Fasher tenait, on pouvait se dire que l'armée pouvait à un moment ou à un autre lancer une contre-offensive, d'autant que El Fasher, c'est un aéroport. Dernière chose, c'est que El Fasher, c'est symbolique. C'est là que a commencé la guerre civile du Darfour en 2003, Donc, il y a quelque chose, c'est là que des groupes dont parlait Jérôme Tubiana, c'est-à-dire les groupes non-arabes du Darfour, ont commencé à attaquer l'armée en prenant l'aéroport. Il y a quelque chose de très symbolique et comme une sorte de boucle, qui se termine, quoi. Là, on a l'impression, vu de loin, je pense que sur le terrain, c'est beaucoup plus divers, mais l'impression d'un Darfour épuré, normalisé, sous la coupe des milices arabes du Darfour qui sont devenues les FSR.
Vous partagez, Jérôme Tubiana, peut-être un petit peu d'histoire aussi pour nous aider à comprendre.
Ouais, je partage tout à fait l'idée que c'est symbolique, même au-delà de la guerre de 2003, la première guerre du Darfour. C'est symbolique parce que c'est la capitale historique du Darfour, c'est la capitale du sultanat du Darfour qui existe depuis le XVIIe siècle. Et donc, pour des communautés arabes nomades, transfrontalière, ce sultanat était aussi quelque chose à abattre historiquement, dès 2003. Quelque chose dans lequel ils n'avaient pas forcément leur place, ou en tout cas pas forcément l'hégémonie que les FSR aujourd'hui prétendent établir au nom de ces communautés arabes. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose de très symbolique aussi, c'est qu'à El Fasher, les populations civiles, bien plus que l'armée, se sont battues avec ces groupes rebelles et ont rejeté les FSR, et donc ont pris les armes elles-mêmes. Ce qui explique l'aspect très vengeur et de la violence actuelle des FSR à l'égard de ces populations civiles. En fait, ce qui s'est passé à El Fasher, c'est d'abord un siège qui a duré 18 mois, un siège qui s'est resserré de plus en plus, qui a coupé la ville de tout approvisionnement extérieur en nourriture, de la part des ONG comme nous, qui avons dû quitter notre dernière présence dans l'enclave en question en février dernier. Et puis aussi pour simplement des commerçants qui n'ont pas pu approvisionner la ville en nourriture. Donc il y a eu une famine très violente. C'est le premier endroit au monde qui a été récemment déclaré en famine, avant d'autres endroits au Soudan et avant même Gaza. Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc ce siège très violent avec des attaques régulières. Plus de 250 attaques des forces de soutien rapide qui ont été repoussées par cette population mobilisée jusqu'à cet épuisement final qui a eu lieu et qui a permis aux FSR de prendre la ville, mais pas de manière apaisée, dans une violence extrême.
Et on va parler longuement de ce siège d'El Fasher pendant 18 mois et peut-être aussi de l'indifférence dans lequel il s'est produit, notamment ici en Europe. Vous nous direz s'il y a des explications. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute un extrait justement de ce massacre d'El Fasher, le témoignage d'une rescapée. Et juste après, une prise de parole du général Emeti, le chef des forces de soutien rapide, à propos de cette prise d'El Fasher qu'il a organisée.
Les bombardements et les attaques de drones étaient constants. Ils nous tapaient à coups de crosse de fusil jour et nuit quand on ne se cachait pas.
Des abus ont été commis à El Fasher. La commission d'enquête va immédiatement commencer son travail. Elle tiendra responsable tout soldat ou officier qui a commis un crime ou abusé de sa position contre qui que ce soit.
Christophe Ayad, c'est assez étonnant d'entendre le chef des FSR presque reconnaître qu'il y a eu des exactions, des massacres.
Oui, alors il aurait du mal à faire le contraire. Ses propres soldats, enfin ses propres hommes, ont posté sur les réseaux sociaux les images de leurs propres exactions, dont un certain Abou Loulou, qui est devenu extrêmement connu par sa cruauté et qui a été par la suite arrêté. Faut pas non plus imaginer que ces gens vont être jugés. Ils ont été arrêtés.
Ni qu'il y aura une commission d'enquête, comme on vient de l'entendre.
Non plus, évidemment que non. Alors, c'est pas le premier massacre qui a lieu au Soudan. C'est juste que là, c'est à l'échelle d'une ville entière et d'une capitale régionale. Et c'est ça, peut-être, qui choque un peu les Soudanais, enfin, qui choque plus les Soudanais, qui sont habitués à des horreurs depuis 2-3 ans que dure leur calvaire et cette guerre civile. Ne parlons même pas des habitants du Darfour, qui, eux, sont habitués à des massacres. Il y avait déjà eu celui de Djenéna, c'est-à-dire un siège, la ville tombe, et ensuite des exactions.
En quelle année?
En 2000, il y a 2 ans exactement, à l'été 2023.
Est-ce qu'on pourrait même remonter aux années 90, aux années 2000? Enfin, on a l'impression que ce conflit, il est très souvent...
Ce conflit est jalonné de massacres. Celui-ci est l'un des plus grands dans une des plus grandes villes.
Alors, si on reste sur cette prise d'El Fasher avec vous, Jérôme Tubiana, peut-être qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue humanitaire, vous qui êtes le conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières?
ce que ça change. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous, à Médecins Sans Frontières, on avait anticipé en cas de chute. On ne pouvait pas espérer cette chute, mais on avait anticipé en cas de chute un massacre. Et c'est ce qui se produit. Et un désastre humanitaire. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est d'abord que quand il y a eu des attaques précédentes, des violences précédentes, y compris à Al-Fashir ou à Al-Jenena, comme le mentionnait Christophe, les gens ont quand même pu se déplacer relativement librement pour atteindre des lieux de sécurité et de l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, ce qu'on observe à Tawila, où on est aussi basé...
Tawila, c'est une ville à 60-70 kilomètres à peu près de Al-Fashir.
C'est une petite ville à 60 kilomètres d'Al-Fashir. Alors, pour complexifier un peu les choses, qui n'est ni contrôlée par l'armée, ni par les FSR. Qui est contrôlée par un autre groupe rebelle, l'Armée de Libération du Soudan, un des fondateurs de la rébellion du Darfour, qui a décidé dans ce conflit de ne pas participer, en fait, de rester un non-belligérant, ce qui garantit une sécurité relative dans les lieux, et ce qui fait que, dans ce lieu, dans cette ville, et ce qui fait que nous, on s'y est installé, on a ouvert l'hôpital là-bas, je suis allé deux fois il y a un an exactement, et depuis, dans le cadre du siège, on a vu y arriver environ 600 000 personnes déplacées d'Al-Fashir, selon les périodes et les vagues de violence. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que très peu de gens y arrivent, alors que des violences massives ont lieu. On a moins de 10 000 personnes qui sont arrivées et on se demande où sont les autres. Est-ce qu'ils sont morts? On sait que certains ont été tués. On sait que d'autres sont retenus sur les routes. On sait que pour pouvoir passer, pour pouvoir voyager, les FSR prennent parfois de l'argent aux gens, voire leur demandent des rançons pour sauver leur vie. Et on sait que les FSR aussi essaient de concentrer les gens dans certains endroits tout en essayant d'y attirer l'aide humanitaire. Et tout ça pose un certain nombre de problèmes, déjà de problèmes éthiques. La première chose à demander, à mon sens, au FSR, c'est qu'il y a eu des blessés, il y a forcément eu des blessés, et que le seul hôpital à des milliers de kilomètres à la ronde, à proximité d'Al-Fashir, c'est notre hôpital de Médecins Sans Frontières à Tawila. Et on pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de blessés qui y parviennent, librement et sans payer.
On sait, Christophe Ayad, qu'on manque aussi d'images de ce conflit, ce qui souvent aide aussi les organisations humanitaires. Comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Et peut-être aussi pourquoi peut-être qu'on a fermé aussi les yeux sur ce
siège.
Oui,
mais alors concrètement, il faut comprendre que c'est une région du monde qui est extrêmement difficile d'accès. Pourquoi la guerre au Darfour a éclaté en 2003? Parce que il y avait 300 kilomètres de route pour un territoire grand comme la France, de route goudronnée, je veux dire. Donc, tout simplement, on est dans le sous-développement le plus total. Vous êtes très loin de la côte, donc de l'entrée du Soudan officiel, aujourd'hui, qui est Port-Soudan. Vous êtes aux confins du Tchad, tout au bout du Tchad. Donc, là aussi, c'est une zone extrêmement reléguée, extrêmement pauvre, difficile d'accès. Donc déjà, pour la presse internationale, y accéder, c'est pas simple. Ça réclame un effort, un investissement considérable en temps, en argent, en moyens. Ensuite, il y a un conflit d'une complexité terrible à expliquer, où en fait, les gens aujourd'hui voudraient réduire les choses à des trucs un peu simples, quoi. Musulmans contre chrétiens, ben non, c'est pas le cas, c'est musulmans contre musulmans. Mais alors, qui sont les bons, qui sont les méchants? En fait, vous avez que des méchants parmi les belligérants, aujourd'hui. Et vous avez les civils qui, eux, sont les principales victimes.
Et qui sont les ballottés. Puissances étrangères qui mettent leur nez là-dedans,
on va en parler. Les puissances étrangères à l'échelle régionale et les milices à l'échelle locale. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien traverser le Darfour et changer d'autorité tous les 30-40 kilomètres parce que une milice locale, un petit front de libération a pris le contrôle d'une ville, le gère, etc. Les FSR contrôlent le Darfour, mais ne le dirigent pas au sens propre. D'abord, leur but n'est pas forcément de diriger les choses. C'est plus une logique de dépouille, c'est-à-dire
de captation des richesses.
Voilà, de captation, de razzia. C'est pas, les FSR ne se sont pas illustrés jusqu'à présent en administrant des territoires, se sont illustrés en rasiant des territoires. Et donc, vous avez affaire à conflit d'une complexité énorme sur un territoire extrêmement grands, extrêmement démunis, sur lesquels il est difficile de se déplacer, où il faut des moyens autonomes, en essence, en communication, etc. Donc c'est pas ouvert pour les médias comme ça, il faut une volonté farouche pour pouvoir y accéder.
Jérôme Toubiana, est-ce qu'on a des raisons du conflit entre les FSR et l'armée régulière? Et en effet, on a la sensation qu'il y a comme deux autorités aujourd'hui au Soudan, hein, l'une et l'autre, qui dirigeraient avec deux premiers ministres même.
Oui, mais c'est... et avec même un effet de couper-coller, c'est-à-dire les FSR cherchent à imiter ce qu'ils pensent devoir être une forme d'administration ou de gouvernement. Et donc, et ça, c'est pour l'image, hein, ça fait partie des relations publiques. En réalité, des deux côtés, les militaires dominent, et pas seulement parce qu'ils ont envie d'avoir le plus de pouvoir possible, ce qui est la cause de leur conflit, bien sûr, cette compétition pour le pouvoir, mais aussi parce que les civils n'ont pas été vraiment à la hauteur, les politiciens civils qui ont précédé cette guerre, qui ont été en partie au pouvoir avant cette guerre. Par exemple, dans le cas du Darfour, ils y ont été complètement absents. En réalité, pendant la période de la transition soudanaise, où il y avait des civils au pouvoir à Khartoum, les FSR étaient en situation d'hégémonie au Darfour.
Là, vous parlez de quelle
année ? Même plus qu'aujourd'hui, dans les années 2019-20. Et donc,
il y a eu un espoir démocratique à
donc,
ce moment-là.
Oui.
À Khartoum.
Mais pas au Darfour.
Mais pas au Darfour.
Au Darfour, il y a eu des vagues de violence, par exemple à Djenena, qui prédataient la guerre actuelle, qui l'ont annoncé, et qui ont été extrêmement violentes aussi. La différence, c'est que les FSR, à l'époque, en étaient des acteurs, mais faisaient attention politiquement. Et déjà, comme l'a fait Métier récemment, avait tendance à s'excuser pour des violences, pourtant dans lesquelles ils avaient une main à l'évidence. Mais pour répondre exactement à la question, ce qu'on voit, c'est qu'on a d'un côté une armée qui a son histoire et ses bases aussi communautaires, géographiques, etc., qui est totalement à l'opposé de ce que sont les FSR. C'est-à-dire qui n'ont pas cette histoire, qui sont d'abord essentiellement une collection de milices avec une identité tribale encore plus limitée que celle de l'armée. Donc tout les oppose en termes d'identité.
Christophe Ayad, est-ce qu'on va vers une partition du Soudan ? Je rappelle qu'il y a déjà eu une scission avec le Soudan du Sud en 2011.
Oui, alors la scission avec le Soudan du Sud en 2011, c'était au terme d'un processus accepté, sanctifié par les Nations Unies, accepté par les partis en cours, qui a donné lieu à un référendum d'autodétermination. Donc tout ça a été très encadré. Là, je pense que personne ne souhaite une partition du Soudan. Même si elle finit par arriver de fait, mais vous n'avez pas, comme en Libye ou comme en Soudan du Sud, l'ONU qui essaye de rapprocher deux camps en leur donnant chacun une part du pouvoir. Imaginons, je sais pas, un parlement au Darfour, un gouvernement à Khartoum. C'est pas l'histoire de Benghazi et de Tripoli. C'est une partition de fait par la force militaire. Moi, ce que j'observe dans ce conflit, je vais essayer de faire court, mais c'est deux visions du Soudan qui s'affrontent. Vous avez la vision des centralistes, c'est celle de l'armée. Le centre compte, les marges n'ont qu'à obéir.
Le centre, c'est Khartoum.
Le centre, c'est Khartoum.
La capitale.
C'est la vallée du Nil. Hein. C'est ça qui compte, c'est les gens purs, les gens bien, ce qu'on appelle les enfants du pays. Ibn el-Walad. C'est ça, les enfants du pays. Les enfants du pays, ils se voient comme eux, les propriétaires du Soudan. Et là-dessus, vous avez en plus une coloration un peu islamiste. Nous sommes cette armée, depuis le coup d'état du général el-Béchir en 1989, elle a été très très islamisée, et donc elle se voit comme légitime, et légitime à diriger le Soudan, mais en plus, elle a l'impression d'obtenir ce pouvoir de Dieu. Et en face, chez les SFR, chez les FSR, pardon, vous avez une vision des marginaux du Soudan, mais c'est les marges qui comptent. C'est le vrai Soudan, il est à l'intérieur, il est dans les terres, il n'est pas à Khartoum. Et on a assez souffert comme ça. Et sur ce thème-là, ils réussissent à rallier des gens assez paradoxaux. enfin qui sont a priori pas forcément des pilleurs ni des violeurs comme le sont les combattants des FSR, mais qui se rallient à, qui ont une telle horreur de l'armée que ils se rallient à cette vision. Dans ce sens-là, oui, vous avez deux visions du Soudan qui s'affrontent et qui pourraient finir par se matérialiser par une frontière. Mais il se trouve que à l'intérieur de chaque camp, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision, et à l'intérieur de chaque camp, vous avez des villages qui n'ont pas envie, qui se sentent soudanais. C'est-à-dire, il n'y a pas chez les Soudanais aujourd'hui du Soudan une volonté de scission, contrairement à ce qu'il y avait lorsque au Soudan du Sud, où les habitants du Sud se disaient « Nous n'avons rien à voir avec ces gens arabes du Nord, nous n'avons rien à voir avec ces musulmans du Nord, nous voulons nous séparer d'eux ». Là, c'est pas le cas. Vous n'avez pas des Soudanais de base qui vont dire « Moi, en tant qu'habitant du Darfour, je ne veux plus avoir affaire à un habitant de Khartoum ». C'est des élites politiques qui se battent pour le pouvoir, et il y a les élites du centre et les élites marginales. Dernière chose, je pense qu'il y a une dimension quasi racial aujourd'hui dans ce conflit, qui est une forme de FSR portent une forme de suprémacisme arabe qui rencontre beaucoup d'échos dans certains pays du Golfe et notamment aux Émirats qui soutiennent les FSR. Et il y a quelque chose d'une forme de racisme envers les populations africaines, bien que musulmanes, mais africaines du Darfour.
Jérôme Toubiana, là-dessus, est-ce que vous, qui revenez tout juste du Darfour, vous pouvez nous dire aussi comment les populations que vous avez pu rencontrer se sentent? Évidemment, il y a cette famine, on voit qu'elle s'est étendue à deux nouvelles régions de l'Ouest et du Sud. Elles subissent cela?
Oui, mais par rapport à cette idée-là, je pense que ce que dit Christophe, en particulier entre cette dualité idéologique, en fait, la guerre l'a un peu affaiblie d'une certaine manière, et probablement pour le mieux, et pour en gommant un peu ses frontières qui étaient fortes avant. D'abord parce que l'armée s'est affaiblie et donc elle a eu besoin, déjà, même si les officiers de l'armée sont essentiellement des gens du centre, effectivement.
L'armée régulière,
c'est moins le cas qu'avant. Ils ont eu besoin non seulement de troupes des périphéries qui font le gros des combats, mais aussi d'alliés des périphéries, comme les rebelles dont on parlait, et même d'officiers des périphéries, et de responsables politiques des périphéries. Donc l'armée est en train de s'ouvrir, pas forcément totalement de gaieté de cœur, mais elle est en train de se diversifier. Et aussi, pour des raisons d'alliance internationale, aussi de mettre un peu à l'écart ces bases anciennes islamistes. Il y a aussi un vieillissement par ailleurs. De l'autre côté, les FSR ont bien essayé de se présenter comme à la fois des défenseurs de la démocratie et de la révolution, et des populations des périphéries. Déjà, en soi, c'est pas si facile d'avoir un agenda aussi divers aujourd'hui, mais ils ont plutôt échoué. En fait, les massacres qu'ils ont faits envers les populations non-arabes dès le début à El Geneina, dont Christophe parlait, ont rendu cet agenda assez peu crédible, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population du Darfour, qui est non-arabe, est d'abord plutôt partisane de l'unité du Soudan, parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans un Darfour où les RSF, ou les FSR, pardon, instaurent un suprémacisme arabe ou une hégémonie arabe, comme Christophe le disait. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense que le scénario de la partition est quand même pas forcément le plus probable, on va dire.
Et pour vous, la comparaison avec la Libye, elle tient ou pas vraiment?
Pas vraiment. Tu veux répondre peut-être?
Non,
je pense qu'on l'a entendu,
vraiment,
Christophe.
Pas vraiment, effectivement. Parce
Christophe
que...
Ayad, vous avez l'air de dire que c'est pas vraiment comparable.
Je dirais pas vraiment non plus, parce que, pour plein de raisons, d'abord historiques, mais aussi parce que, donc justement, beaucoup de Soudanais, par exemple, des périphéries, notamment du Darfour, parfois la majorité de certaines communautés vivent au centre. Ils travaillent au centre, ils vivent au centre. Pas forcément aux postes les plus importants, mais comme parfois des ouvriers de base dans l'agriculture. Certaines villes de l'Est, où l'armée n'a jamais perdu le contrôle, sont en majorité peuplées de gens des périphéries de l'Ouest. Donc pourquoi voudraient-ils ne plus perdre une partie de leur pays, comme l'ont perdu d'ailleurs les Soudanais du Sud, hein, dont beaucoup vivaient à Khartoum et parfois regrettent l'indépendance aujourd'hui.
Vous avez plus d'habitants du Darfour à Khartoum qu'à El Fasher.
Qui
est au Darfour.
Tout à fait. Pour des raisons professionnelles plutôt.
Bah, professionnelles ou parce qu'ils ont été déplacés par les combats?
C'est avec une grande tristesse que je suis les nouvelles tragiques en provenance du Soudan, en particulier de la ville d'Al-Fasher, dans la tourmentée région du Darfour septentrional. Les violences aveugles contre les femmes et les enfants, les attaques contre des civils sans défense et les graves obstacles à l'action humanitaire causent des souffrances inacceptables à une population déjà épuisée par de longs mois de conflit. J'adresse un appel sincère aux parties impliquées pour un cessez-le-feu et l'ouverture urgente de couloirs humanitaires. Enfin, j'en appelle à la communauté internationale pour qu'elle intervienne avec détermination et générosité.
On vient d'entendre la voix du pape Léon XIV qui a appelé hier à un cessez-le-feu au Darfour, traduit ici par nos confrères de Radio France Internationale. Et j'aimerais qu'on en profite pour parler donc de ce regard de la communauté internationale. Pourquoi a-t-il mis autant de temps à enfin, comme on le fait d'ailleurs nous ce soir, mettre la focale sur ce conflit et aussi sur le poids des autres pays. Peut-être pour le résumer, hein, mais parce que c'est pas simple de comprendre, les FSR, donc dont on parle depuis le début, qui ont pris Al-Fasher, qui est ce groupe paramilitaire, ont le soutien des Émirats Arabes Unis. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi, si on sait pourquoi, alors que l'armée régulière a le Soudan, l'armée régulière du Soudan, pardonnez-moi, a le soutien de l'Égypte et de l'Iran, par exemple, pendant que le Tchad et la Libye sont ambigus. Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer avec vos regards à tous les deux, Christophe Ayad et Jérôme Toubiana, comment comprendre aussi les enjeux régionaux, voire internationaux, qui concernent le Soudan?
Alors, l'Égypte, c'est simple. L'Égypte souhaite un Soudan uni sous la coupe des militaires parce que ça ressemble à l'Égypte. Et l'Égypte a toujours été, jacobine. Dans ce sens-là, elle soutient la force la plus jacobine, l'armée soudanaise, bien qu'elle soit légèrement encore un peu assez islamiste sur les bords, et ce qui n'est pas du tout le cas du pouvoir égyptien, mais c'est pas grave, c'est des militaires, on peut s'entendre avec.
Égypte qui partage la frontière nord voilà. Du Soudan.
Les Émirats, qui sont dans le camp d'en face, il y a une forme d'aventurisme. Alors, il y a des intérêts très immédiats. Les FSR exploitent de manière totalement sauvage et illégale des mines d'or. Les Émirats sont très friands d'or parce que c'est le premier marché d'or mondial pour alimenter Dubaï. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous allez faire vos courses et que vous achetez un bracelet en or à Dubaï, il y a des chances que l'or provienne du Soudan et finance la guerre. Ensuite, il y a l'idée que, à travers les FSR, si les FSR l'emportaient, le Soudan pourrait devenir une sorte d'immense réserve agricole, stratégique, pour pas cher, des Émirats aux portes de l'Afrique et de la mer Rouge. C'est-à-dire que faut pas oublier que le Soudan a une côte sur la mer Rouge qui contrôle le canal de Suez. Et donc, celui qui remporte le Soudan, il remporte cette mise-là. Alors évidemment, l'Arabie Saoudite qui est en face regarde pas ça d'un très bon œil et aimerait que le Soudan reste dans le giron de l'armée. Donc voilà pourquoi et comment se positionne chacun. Mais il y a une forme d'aventurisme un peu très audacieux et très cynique de la part des Émirats Arabes Unis, comme ça a été déjà le cas en Libye, comme ça a été le cas en Érythrée, comme ça a été le cas en Somalie. Ce pays, faut quand même voir un jour la carte globale de ses interventions au Yémen. C'est un pays qui est extrêmement actif, qui n'hésite pas à déstabiliser des pays entiers pour ses propres intérêts qui sont parfois un peu nébuleux.
Il faut dire que le Soudan a des réserves et des ressources extraordinaires. Hein. Or, pétrole, la gomme arabique qui sert par exemple pour les chewing-gums ou les sodas.
Le Coca-Cola.
Le bétail que je suis en train de boire actuellement, vous avez l'œil, Christophe Ayad. Le bétail qui continue d'être exporté massivement à l'étranger. C'est vrai, quand on lit ça, Jérôme Toubiana, vous avez l'expérience du terrain, vous allez nous dire, mais on se dit qu'on est complètement en train de déposséder les Soudanais de leurs propres ressources et qu'en fait, ceux qui achètent toutes ces ressources financent ces groupes armés qui mènent cette guerre. Ou est-ce que c'est trop résumé ?
Oui, mais en réalité, par exemple, c'est là que je rejoins l'idée de l'aventurisme, c'est que les Émirats, ils bénéficiaient de l'or soudanais avant la guerre, de toute façon. Quel que soit le côté d'où ils venaient, ils finissaient à Dubaï. Et aujourd'hui encore, il y a plus d'or côté armée régulière, et ils finissent toujours à Dubaï. le commerce n'est pas toujours politique. Mais c'est là que je vois de l'aventurisme. Je vois que ça va bien au-delà de l'exploitation des ressources. Ça va. Les Émirats sont un peu le dernier arrivé dans la région. C'est les autres pays du Golfe avaient tous déjà une politique soudanaise. Le Qatar, l'Arabie Saoudite étaient influents. Et pour eux, l'intérêt, c'est que ça ne change pas puisqu'ils ont déjà placer leur pion sur la table. Les Émirats ne l'avaient pas encore placé. Et plutôt que de se contenter de ce qu'ils ont déjà, ils se disent, pourquoi ne pas jouer à qui gagne prend tout. Et donc, ils parient, l'armée ayant déjà suffisamment d'alliés, ils parient sur les Émirats, sur les forces de soutien rapide, comme dans d'autres pays de la région, ils vont aussi parier sur les outsiders, comme par exemple Haftar en Libye, plutôt que le gouvernement internationalement reconnu. Donc voilà, c'est vrai que c'est une stratégie aventureuse. Le problème qu'on a là, c'est qu'elle a fait effectivement des dégâts qui vont durer longtemps. Et vous parliez d'exploitation des ressources. Je pense que même du côté des forces de soutien rapide, on pourrait le voir différemment. C'est qu'avant la guerre, les forces de soutien rapide gagnaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand bien même ils venaient à contrôler un bout du Soudan, ils auront une dette avec les Émirats qui devra se payer par l'exploitation des ressources sur un plus long terme.
Est-ce qu'on peut faire un lien, Christophe Ayad, entre nos intérêts, nous en tant qu'Européens, avec les Émirats, pour expliquer qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ce conflit ?
On ne s'intéresse pas beaucoup à ce conflit parce que, fondamentalement, il n'a pas de répercussions chez nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le conflit israélo-palestinien qui passionne dans les foyers, où il y a une communauté juive, il y a une communauté arabe, il y a des Palestiniens qui manifestent dans la rue, etc.
Il est difficile à comprendre, en plus. Avec
deuxièmement,
vous, ça va mieux,
il est complexe. Troisièmement, il a des répercussions à très long terme. C'est-à-dire, vous aurez, de toute façon, dans les années à venir, ça, c'est là que les Européens ont tort de se désintéresser du Soudan, des vagues d'émigration de Soudanais qui ont chassé du Soudan, sont partis au Tchad, puis en Libye, et un jour prendront des bateaux pour aller en Europe, parce qu'ils n'ont nulle part où aller, et qu'en Tchad, en Libye, ils sont maltraités. Et deuxièmement, il y a nos liens avec les Émirats, qui nous achètent des armes, qui investissent dans nos pays, c'est un fonds... Donc, attaquer diplomatiquement de front les Émirats, décréter un embargo sur les armes, c'est se tirer une balle dans le pied commercialement, notamment pour les Français.
Armes qu'on pourrait retrouver parmi les FSR, Jérôme Taubira.
Alors d'abord, j'en sais rien, et les Émirats y disent systématiquement absolument.
Toutes les forces en effet en présence dont je viens de parler, étrangères, disent qu'elles n'ont aucune implication bien sûr.
Mais il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes journalistiques et non journalistiques par des experts. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui faisait état d'un certain nombre de faits et qui finalement a été visiblement censuré. C'était un rapport intermédiaire qui a été leaké. Et dans le rapport final du panel des Nations Unies, il n'y a plus de mention des Émirats. C'est quand même étrange. C'est quand même difficile, normal. Ce serait quand même étrange qu'on puisse imaginer même un rapport qui au moins mentionne des suspicions, on va dire, même si les preuves manquent. Voilà, donc on a un certain nombre de... Après, par ailleurs, je dois vous dire que j'ai évacué du Soudan jeudi matin après un bombardement de drones sur la zone où on était. Et j'ai pensé aux Émirats, évidemment, hein, je pense comme tous les gens autour de moi, parce que comment c'est possible que une force paramilitaire, qui est quand même composée de gens dont le leader Emeti lui-même a été scolarisé jusqu'à l'école primaire, évidemment, donc comment cette force, au départ, qui était composée de supplétifs, arabes nomades, de communautés effectivement très marginalisées et très pauvres, comment se fait-il qu'ils se retrouvent à piloter des drones ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire seuls ? Comment se fait-il qu'ils aient un tel soutien en équipement qui leur permettent de bombarder simultanément des zones très distantes, parfois très lointaines, de bombarder depuis le Darfour, l'aéroport de Port-Soudan, à des milliers de kilomètres, il doit forcément y avoir quand même quelques interférences étrangères pour expliquer ce soutien.
Christophe Ayad, là-dessus, c'est vrai qu'il y a la présence de drones dans ce conflit, ce serait intéressant qu'on en dise un mot, mais également de mercenaires colombiens.
Alors, des rapports font des état de la présence de mercenaires colombiens qui servent à acheminer des armes depuis la Libye et depuis le Tchad au profit des FSR, des forces de soutien rapide, et pour le compte des Émirats. Moi, j'ai pas moyen de vérifier ça, mais je pense que c'est pas complètement délirant, sachant la capacité des Émirats à recourir à ce qu'on appelle des proxys et des mercenaires.
pour vouloir la belle musique. Soudan, mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler. Soudan, mon Soudan, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
On vient d'entendre Alain Souchon, c'était en 1993, la chanson « C'est déjà ça » qui déjà parlait du Soudan et des réfugiés dont vous parliez à l'instant, Christophe Ayad, qui pourraient arriver à l'aune de ce conflit. Là, c'était déjà lors de la deuxième guerre civile du Soudan et il dénonçait...
Celle-là avec le Sud, oui.
Le racisme et c'est les profits de cette chanson composée par son acolyte dont j'oublie le nom. Exactement, merci beaucoup Jérôme Soubiana, ont été reversés à Amnesty International à l'époque. Christophe Ayad.
Mais allez expliquer ça, cette complexité aujourd'hui à Donald Trump, alias prix Nobel de la paix. C'est d'une complexité terrible. Ce qu'il voit, c'est que les Émirats, c'est compliqué de faire pression sur eux parce que ils ont une quantité d'investissement aux États-Unis. On l'a vu dans la guerre de Gaza. Lorsque les pays du Golfe sont allés voir Trump en disant « Nous, si Israël continue, on retire l'argent qu'on a aux États-Unis », là, d'un coup, il y a eu un plan de paix qui est sorti comme par hasard, enfin de la Maison Blanche. Faire pression sur les Émirats, c'est pas simple du tout, ni pour Trump, ni pour Emmanuel Macron, qui a des liens extrêmement forts avec Mohamed Ben Zayed, le souverain émirati.
On a entendu tout à l'heure le pape Léon XIV. Est-ce que, en effet, Donald Trump se penche ou pas sur ce conflit? Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement? Parfois, on entend que si personne ne s'en mêlait, déjà, ce serait moins pire en termes d'intensité humanitaire. Jérôme Toubiana.
Il y a différents types d'interférences étrangères et le Soudan a une longue histoire d'interférences étrangères. On peut quand même pas mettre sur le même plan, par exemple, les anciennes interférences chinoises dans le pétrole soudanais et l'action humanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que, par exemple, nous, à Médecins sans frontières, on a le sentiment d'être un peu seul. On a une certaine autonomie financière qui nous permet d'être un peu seul, mais on voit que beaucoup d'autres partenaires humanitaires souffrent. On voit que, par ailleurs, dans la zone où j'étais, en gros, sur des milliers de kilomètres, il y a que quelques hôpitaux. Mais de temps en temps, on visite des centres de santé. Parfois, j'en ai vu un, c'était une pièce dans une école, et qui continue à fonctionner tant bien que mal avec, notamment, l'argent de la diaspora soudanaise, c'est-à-dire des réfugiés soudanais qui sont parvenus à quitter le pays, et il y en a plusieurs millions, et seulement quelques milliers en Europe, parce que c'est difficile d'aller en Europe, parce qu'il y a des politiques européennes qui ne permettent pas de faire sa demande d'asile avant d'avoir traversé le Sahara et la Méditerranée, et d'avoir dépensé quelques milliers d'euros en finançant des passeurs. Donc tout le monde ne peut pas faire ça, et je pense pas que l'Europe devrait s'intéresser au Soudan, parce qu'il y a un risque de migration massive. D'abord, ce n'est pas le cas, mais je constate que cette migration, en réalité, ces réfugiés, leur donner l'asile, ça a aussi une utilité sur l'aide humanitaire. Aujourd'hui, l'aide humanitaire est en partie financée par des diasporas, et pas seulement au Soudan, et on devrait y penser. Donc ces gens qui parviennent chez nous prennent ensuite soin de leur pays à long terme.
Eh bien, merci infiniment à tous les deux d'être venus dans Question du soir pour évoquer le Soudan et la relative ou l'indifférence internationale. C'était le titre de cette émission. Jérôme Toubiana, qu'on vient d'entendre, conseiller aux opérations de Médecins sans frontières. Et vous, Christophe Ayad, journaliste au Monde. Je cite votre documentaire Darfour, autopsie d'une tragédie réalisée, co-réalisée en 2007. Merci à tous les deux et merci à l'équipe de Question du soir, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Juliette Moellic et Antoine Héral qui m'ont aidé à préparer cette émission.